Vous êtes sur RTL.
Le monde tel qu'il est à 19h19 sur RTL. Vous savez que cette année, on a décidé de vous donner la parole, de vous inviter à la table d'RTL Soir. Vous venez nous raconter votre vision de la vie, de là où vous êtes, de votre profession, de votre expérience. Et on échange tous les soirs jusqu'à 20h et c'est formidable. Ce soir, on va échanger avec vous, Catherine Giraud-Bonnet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes commandant de police en disponibilité, enquêteur privé et auteur du livre Infiltré, une femme au stup aux éditions du Nouveau Monde. Vous êtes une ex du 36 Quai des Orfèvres et de la Brigade des Stupes. Et vous êtes une des premières femmes à vous être infiltrée dans les réseaux de drogue. Fiona Colombares, bonsoir Fiona.
Bonsoir.
Approchez-vous bien du micro.
Bonsoir.
Vous êtes infirmière dans une salle de consommation à moindre risque à Paris, ce qu'on appelle des salles de shoot, hein, pour
Exactement.
Parler familièrement, qui se trouve à côté de la gare du Nord et qui est gérée par l'association Gaïa. Et puis notre psy, Marie-Estelle Dupont. Bonsoir Marie-Estelle, psychologue clinicienne, psychothérapeute et auteure de « Se libérer de son moi toxique ». On est dans le toxique hein, ce soir, décidément. Le mot du jour... ces drogues. Ça fait plusieurs semaines que la lutte contre la drogue est la nouvelle obsession affichée, revendiquée du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
La drogue est interdite sur le territoire national.
4 kilos de drogue qui ont été pris sur le fait.
La drogue gangrène nos quartiers.
Tuer tout trafic de drogue et toute consommation de drogue sur le territoire national. Toute quantité de drogue devra connaître une verbalisation.
Et il y a des faits hein, derrière ces mots, puisque hier soir, une dizaine d'opérations de police a été menée dans toute la France pour lutter contre ces trafics de stupéfiants. Gérald Darmanin qui a demandé au préfet des opérations de police toutes les semaines. Alors, on a l'impression d'avoir déjà connu ça, d'avoir déjà vécu ça, du volontarisme, des mots, etc. Catherine, madame la policière, pourquoi on n'y arrive pas à stopper les trafiquants? On a l'impression que c'est le tonneau des Danaïdes ou que c'est Sisyphe.
Ben c'est sûrement le tonneau des Danaïdes, c'est aussi une façon de vider la mer avec des baguettes chinoises. Hein, c'est encore plus difficile avec une
petite
cuillère.
C'est plus compliqué encore qu'avec une cuillère, oui.
Mais parce qu'il y a une telle volonté hein, de la part des trafiquants de faire toujours plus, parce que le centre du sujet, c'est l'argent. Donc évidemment, si on arrivait à les contrer, ça serait assez terrible pour eux. Mais la bataille, il ne faut pas se dire qu'elle est perdue, parce que sinon les policiers ne vont pas se lever le matin. Mmh. Chaque policier qui travaille dans les stupes, se lève hyper motivé et sait que tout ce qui fait, même des petites choses, ça fait avancer les choses et il y a des choses qui marchent bien. Et toutes ces opérations qui sont divulguées dans la presse, etc., cachent des centaines d'opérations chaque jour dont personne n'a connaissance, à part les magistrats, bien sûr.
C'est pas mal parce que c'est par rapport à ce qu'on entend, on a toujours l'impression que le voleur a des siècles d'avance sur le gendarme, mais là, en l'occurrence, vous nous dites qu'il y a quand même des résultats, il ne se passe pas rien.
Mais oui, il y a des résultats. Il y a des résultats. Alors, c'est vrai que les grands trafiquants internationaux ont parfois des choses insensées pour faire passer de la drogue, des sous-marins, etc. Nous, on a toujours l'impression de manquer de moyens. On en manque. Mais je veux dire, la police, en tout cas la police française, est tout à fait à la hauteur de cette lutte. Mmh. Et moi, je dis que rien n'est perdu.
Fiona, vous les voyez, les ravages de la drogue dans ces salles de shoot. C'est quoi la réalité à laquelle vous êtes confrontée au quotidien?
La réalité, déjà, c'est un public souvent en grande précarité.
C'est qui?
On a beaucoup de migrants, on a des personnes qui ne sont plus insérées dans la société, et c'est des personnes malades. La toxicomanie, c'est une maladie, et quand ils viennent chez nous dans notre salle de consommation, ils viennent se soigner avant tout. Malheureusement, c'est des personnes qui, dans le quotidien, petit à petit, a perdu tout intérêt et se sont retrouvés dans l'utilisation de substances d'un usage abusif et ils n'arrivent pas à se sortir de cette pratique et c'est vrai qu'on voit les ravages de la drogue, mais moi je les vois forcément du côté des utilisateurs, des usagers et en France malheureusement les usagers ils sont stigmatisés, on oublie que c'est des malades, nous on est confrontés aussi à des interventions policières fréquemment auprès de ce public. Et
vous savez que les policiers viennent faire quoi chez vous?
Déjà, ils viennent faire de l'intimidation. Ils passent devant la salle, ils viennent mettre les sirènes à fond. On a des arrestations qui sont très musclées. Ce matin encore, on a eu une arrestation devant notre camion de distribution de matériel de réduction des risques.
Parce que pour qu'on comprenne bien, dans ces salles de shoot,
oui,
on vient se droguer en toute sécurité. C'est ça, hein, avec
toute
hygiène.
Légalité.
Et en toute légalité. Comment on peut se droguer en toute légalité alors que la drogue est interdite? Enfin, il y a un truc qui m'échappe.
Ben, c'est une bulle, hein. Fiona le dira mieux que moi, mais c'est, légalement, c'est une bulle. C'est-à-dire qu'on peut y venir avec son propre matériel, sa propre drogue. C'est-à-dire que c'est pas Fiona dans sa salle de shoot qui fournit, hein, ça c'est clair. Mais elle peut pas participer au shoot. Le type se shoot tout seul, c'est encadré. Et puis, s'il y a un mort ou n'importe quoi, il peut y avoir une enquête. Donc c'est une bulle. C'est, moi, je suis policier.
Je me permets juste une seconde.
Allez-y.
C'est un peu le même concept que l'euthanasie dans des maisons ou que les maisons closes à une époque. C'est-à-dire qu'on essaye de sécuriser un risque à l'intérieur de quelque chose d'interdit.
On part du principe que ça existe et donc il vaut mieux l'encadrer, voilà.
C'est ça. C'est la pratique est là, les usages sont là, donc la réduction des risques, elle est autorisée par la loi maintenant. Et le but, c'est de ne pas laisser ces personnes mourir sur le trottoir d'une overdose ou d'un choc septique. Et c'est vraiment de leur apprendre les bonnes pratiques. Et en fait, si déjà on leur inculque la volonté de réfléchir à leurs pratiques, de réfléchir à leur prise de substance, peut-être que par la suite, il va y avoir une envie de se soigner. Et c'est aussi ça qu'on essaye de déclencher sur eux.
Et à leur santé globale, parce qu'il faut bien se rappeler qu'un toxicomane est en général a des comorbidités. C'est-à-dire que le fait même d'être toxicomane amène plus facilement d'autres maladies. D'abord parce que la drogue diminue les défenses immunitaires. Et ensuite parce que s'il n'y avait pas les salles de shoot pour donner des outils propres, entre guillemets, ils s'infecteraient, il y aurait plus de sida, etc.
Alors ce qui est étonnant, vous nous parliez de la clientèle, entre guillemets, que vous voyez, qui est donc plutôt des sans-papiers, des gens en très grande précarité. Oui. Marie-Estelle, la drogue, ça touche... Enfin, on a dans l'idée que ça touche toutes les classes sociales et tous les âges. C'est aussi ce que vous voyez, vous, ou pas ?
Oui, ça touche toutes les classes sociales parce qu'en fait, la drogue a pour but de remplir un vide. Et c'est illusoire puisqu'en fait, elle vide. Elle vide des défenses immunitaires et elle vide des ressources sociales et intellectuelles. Mais oui, il y en a dans tous les milieux, bien sûr. Bien sûr, et à la limite, plus il y a d'argent, plus c'est facile de s'en procurer.
Catherine, pourquoi les policiers vont faire du pimpon devant les salles de shoot ?
Alors, bon, je suis contente que vous me posiez la question.
Bah oui.
Là, je ne savais pas que forcément...
On a une policière
et
une infirmière, donc on en profite.
Mais non, mais alors, il ne faut pas forcément toujours dissocier les policiers du soin. Je veux dire, on n'est pas le diable face aux soins. Nous, on a des toxicomanes dans nos bureaux. Et nous, on a vécu, enfin moi, qui suis plus âgée que vous, mesdames, j'ai vécu le début de la méthadone, du Subutex, où en fait on ne pouvait pas en tant que
policier...
Donc
des produits de substitution.
Contre l'héroïne. Et on n'avait pas le droit d'intervenir autour des hôpitaux où les gens venaient prendre du Subutex, etc. Et ça a créé un vide. Et le vide l'a été rempli par qui ?
Par les dealers.
Par les dealers. Les dealers venaient jusque dans les hôpitaux pour vendre quoi ? Pas de l'héroïne, puisque c'était antagoniste, ils ne pouvaient pas en prendre. Mais de la cocaïne. Et en fait, je veux dire, je ne défends pas les policiers qui font pimpon, parce que si je les connaissais, je leur tirerais les oreilles. Mais ce que je veux dire, c'est que si nous, on ne passe pas, les dealers, de toute façon, seront là. Donc, en fait, c'est une guerre, hein, les dealers contre les policiers. Alors, ceux qui trinquent, c'est les toxicos.
C'est ça.
Ça, j'en ai bien conscience.
Fiona, vous arrivez à travailler avec les policiers quand même ? Il y a une collaboration
très, honnêtement, c'est très difficile. Après, il ne faut pas faire de généralité. On a des policiers qui sont très bienveillants et qui ne sont pas là à faire la guerre contre les usagers. Mais c'est vrai que malheureusement, ceux qu'on voit le plus et ceux qui font le plus de bruit, ça va être des policiers stigmatisants. Ce matin, par exemple, c'est un exemple criant de vérité. On distribuait du matériel devant une scène de consommation de crack. Et en fait, il y a eu une arrestation un peu musclée. Et on a entendu comme ça un policier dire « De toute façon, on va finir par tous vous gazer les toxicos. »
Alors le crack, ça fait très peur. Je me permets juste une parenthèse parce que pour les gens qui ne le savent pas, c'est un concentré de cocaïne donc qui passe plus vite dans le sang et qui rend plus violent et plus agressif.
Et on est addict tout de suite, hein, c'est ça.
C'est ça. En fait, c'est la cocaïne basée.
C'est une sorte de révélation
qui peut être fumée, en fait. Sinon,
c'est
la cocaïne
pas un dérivé, c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est de la
cocaïne avec du bicarbonate de soude pour changer le pH et il est à ce moment-là fumable.
Mieux assimilé grâce au bicarbonate.
Marie-Estelle, vous comprenez qu'on puisse être gêné d'entendre ça, d'entendre qu'on va aider des gens qui sont en train d'acheter du crack ? On se dit finalement, est-ce que c'est pas un soutien en quelque sorte
Je comprends très très bien que ça fasse très très peur.
Ouais.
Mais autant je suis fermement opposée à la dépénalisation du cannabis, et on en parlera peut-être tout à l'heure.
Ça vient après,
Autant je pense que les salles de shoot sont peut-être une porte d'entrée pour faire comprendre à des gens très malades qu'ils peuvent redevenir l'acteur de leur santé. Parce que la drogue, c'est une recherche, malgré tout, ça peut paraître dingue de dire ça, de mieux-être et d'homéostasie. C'est-à-dire de retour, de l'être humain cherche toujours son homéostasie, c'est-à-dire un état de tranquillité. Donc si on lui fait comprendre que l'outil qu'il utilise, et c'est pas le pays des bisounours de dire ça, c'est vrai, quand moi j'ai accompagné beaucoup de toxicomanes, et notamment des sportifs de haut niveau qui sombraient dans la coke après, si on leur fait comprendre que l'outil de bien-être est profondément autodestructeur, il y a une partie saine chez chaque être humain qui, à un moment donné, a envie de s'en sortir.
Catherine, j'ai une question peut-être un peu bête, mais est-ce que les dealers se droguent ?
Alors, il y en a. C'est-à-dire que tout en bas de la pyramide, j'allais dire, du trafic, nous, on a les gens qui consomment, les toxicomanes. Juste au-dessus, on a les toxicomanes dealers, c'est-à-dire ceux qui achètent, qui prennent et qui en revendent une partie pour financer leur propre toxicomanie. Mais plus on monte dans la hiérarchie, et moins on se calme. Parce que les dealers, eux, ils savent que les gens vont finir dans le caniveau. Donc ça s'arrête très vite.
On marque une petite pause et on se retrouve le monde tel qu'il est sur RTL.
Partageons la route, protégeons la vie.
Nous n'avons jamais été aussi nombreux sur la route. Voitures, motos, vélos, sans compter toutes les nouvelles solutions de mobilité comme les trottinettes. Alors quel que soit le mode de transport choisi, y compris à pied, la vigilance est plus que jamais l'affaire de tous. À la rentrée sur la route, restons tous vigilants.
Massif, essentiel pour moi.
La bonne idée débute pour la rentrée, un micro-ondes remboursé à 200% pour équiper son studio, faire soi-même ses repas. C'est beau l'indépendance.
La rentrée moins chère, c'est chez But. En ce moment, le four à micro-ondes Whirlpool à 74,99€ est 200% remboursé. Quantité limitée à 7000 pièces. Remboursement en 3 bons d'achat successifs. Produits concernés et conditions en magasin et sur but.fr.
Et vous, qu'attendez-vous pour passer à la mobilité électrique avec Renault ?
Que vous souhaitiez rouler en hybride ou en électrique, il y a une Renault pour vous. Pendant les portes ouvertes du 10 au 14 septembre, venez découvrir et essayer nos modèles iconiques avec leur nouvelle motorisation. Clio en hybride, Captur et Mégane en hybride rechargeable ou encore Zoé pour une conduite 100% électrique. Et en plus, la prime à la conversion et le bonus écologique continue. Profitez-en.
Voir Renault.fr, conditions de reprise et d'éligibilité sur primealaconversion.gouv.fr.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes.
Allô, allô, patron.
T'as la banane, toi, dis donc.
Ah bah non, c'est plutôt Lidl qui l'a. Dès aujourd'hui, ils nous font kilo de banane à 99 centimes.
Quoi ? 99 centimes le kilo de banane ? Mais ils nous prennent pour qui ?
Pour des bananes, patron.
Tu crois que c'est le moment de faire tes blagues à 2 balles ?
Ah, 2 balles ? Ah non, 99 centimes le kilo, patron.
On est mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Vendu en vrac, catégorie 1, variété Cavendish, calibre P20, diverses origines selon arrivage en supermarché. Lidl, partenaire de l'équipe Quickstep pour les produits frais. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Savez-vous que 200 000 Français payent leur carburant 30% moins cher ? Alors faites comme eux et payez moins cher en roulant avec la gamme EcoG Dacia et ses nouvelles motorisations essence compatibles GPL sans surcoût. Et en ce moment, profitez de Dacia Sandero EcoG à partir de 11 190 euros et continuez de bénéficier de la prime à la conversion jusqu'à 3 000 euros.
Prix conseillé pour Dacia Sandero Essentiel 9 EcoG 100. Voir détails sur Dacia.fr. Conditions de reprise et d'éligibilité sur primealaconversion.gouv.fr.
Chérie, s'il nous arrivait quelque chose, comment on ferait pour payer les charges, les études des enfants ?
Bah, on pourrait protéger notre famille pour moins de 6 euros par mois.
Non mais je te parle sérieusement là.
Bah moi aussi.
Avec Secure Famille 2, sécurisez financièrement l'avenir de vos proches en prévoyant le versement d'un capital garanti. Caisse d'épargne, vous être utile. Contrat d'assurance d'essai de BPCE Vie et BPCE Prévoyance, entreprise régie par le Code des assurances, distribué par votre caisse d'épargne, intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS. Cotisation pour un assuré de 35 ans et 30 000 euros de capital garanti en formule optimale, selon conditions et exclusions contractuelles en vigueur.
Bonjour, c'est Eric Jean-Jean.
Bonus track sur RTL.
La chanson de Bob Marley, No Woman, No Cry, elle a servi à financer la soupe populaire d'un quartier de Princetown. Vous ne le saviez pas ? Alors je vous donne rendez-vous dans Bonus track tout à l'heure, à partir de 21h, pour découvrir tous les secrets de vos tubes préférés. Et croyez-moi, vous ne les écouterez plus jamais de la même manière.
Le monde tel qu'il est sur RTL, on prend tous les soirs un sujet d'actualité et le confronte à vos expériences sur le terrain. Avec nous ce soir, Catherine Giraud-Bonnet, commandante de police en disponibilité, enquêteur privé, auteur d'un livre Infiltrer une femme au stup. Elle a été une des premières femmes à s'infiltrer dans les réseaux de la drogue. Fiona Colombares, infirmière dans une salle de shoot, on dit une salle de consommation à moindre risque à Paris du côté de la gare du Nord. Et Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne et psychothérapeute. On parlait de la drogue et il y a quand même un fait nouveau, puisque depuis aujourd'hui, l'amende forfaitaire est généralisée partout en France. En gros, si vous êtes majeur et que vous fumez un joint dans la rue, vous aurez illico une amende de 200 euros. Écoutez ces quelques réactions surprenantes, c'était sur RTL.
Moi, ça fait longtemps que je fume, puis c'est pas ce qui va m'arrêter. Par contre, que ça tombe dans la rue, c'est aussi un manque de respect de la part des jeunes qui fument dans la rue, parce que tout le monde n'a pas obligé de sentir l'odeur du cannabis.
On se retrouve sur une hauteur d'amende qu'on ne met même pas aux gens qui jettent leur masque par terre. On sent que c'est quand même une mesure vraiment financière et pas de santé publique.
Mesure financière et pas de santé publique, mesure efficace ou pas à votre avis ça?
Alors moi je suis super Catherine. Partagée. Pourquoi? Parce que là les gens entendent quoi? Le mot amende. C'est-à-dire qu'ils se disent ah mais c'est devenu beaucoup moins grave qu'avant. Mmh. C'est-à-dire que quelque part c'était un délit, maintenant si c'est une amende ça doit être une contravention. Mmh. C'est ça qui est grave. Hein.
Donc, ça dédramatise vous pensez ça?
Je pense que ça dédramatise et il y en a qui vont se dire bah, au pire je paierai, mes parents paieront. Enfin, voilà. Mmh. Et puis parler de l'argent c'est quand même assez drôle pour des gens qui dépensent beaucoup d'argent dans leurs produits, ça me fait un peu marrer. Hein, je veux dire, voilà.
Marie-Estelle.
Oui, je suis vraiment d'accord avec Catherine. En fait, je pense que le problème de l'amende, bien sûr, c'est pour désengorger la justice, mais en fait,
c'est peut-être aussi pour qu'il y ait une réponse là où il n'y avait pas de réponse, que jusqu'à maintenant, tout le monde fumait son
pétard. Il n'y avait pas de réponse de la justice.
Oui, c'est
la police
mais
non
déjà,
plus, non
tous ceux qui peuvent payer, ça va avoir simplement pour effet d'augmenter le prix de la drogue pour eux. Voilà, c'est tout. En gros, papa va payer 200 euros en plus parce que j'ai des amendes.
Il y aura une taxe sur la drogue.
Ouais. Donc, ceux dont les parents peuvent payer, voilà, ça sera annulé finalement le côté sanction. Et puis, le problème de l'amende, c'est que je pense que ça risque d'enlever effectivement le côté symbolique de la garde à vue qui peut être dissuasive.
Il n'y avait plus de garde à vue, Marie-Estelle.
Ou de, oui, enfin de commissariat, le, ouais. Pardon, excusez-moi. Donc pas la garde à vue, mais le fait d'aller au commissariat, que potentiellement, s'il y a des récidives, il y a une inscription au casier judiciaire, ce qui était très dissuasif pour les futurs fonctionnaires ou les futurs
c'est
avocats.
Ah oui.
Et toute la dimension symbolique qui est tellement structurante pour le psychisme, elle disparaît dans l'amende.
Fiona, vous en pensez quoi, vous ?
Malheureusement, moi, je ne vais pas être tout à fait d'accord, vu que je suis une grande militante pour légaliser le cannabis et réguler le cannabis, pour le coup. Moi, je trouve que cette amende, en fait, elle va...
Pourquoi vous, qui travaillez au contact des toxicomanes qui sont dans le pire état qui soit, vous voulez légaliser le cannabis ?
Alors, déjà, le public avec lequel je travaille ne sont pas forcément consommateurs de cannabis, ou alors c'est très anodin comme produit sur tout ce qu'ils consomment. Le cannabis, si on reprend l'histoire de pourquoi ça a été interdit, ça vient de la prohibition dans les années 20-30 aux États-Unis sur une grosse vague de racisme. Quand on regarde vraiment les dommages au niveau de la santé pour le cannabis, ça va vraiment être lié au mode de consommation et à la combustion et pas à la plante elle-même de cannabis. Et donc pour moi, en fait, faire de la répression et mettre des amendes, ça va absolument rien changer à la pratique. Au contraire, si on veut changer et diminuer le nombre de consommateurs ou alors améliorer les pratiques, il faut éduquer, il faut informer sur comment mieux consommer la plante. Et pour moi, une deuxième chose qui est très importante, c'est que cette amende, en fait, elle va renforcer les inégalités sociales, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui ont des moyens de consommer chez eux, de se faire livrer le cannabis par des dealers. Maintenant, ça se fait beaucoup. En fait, ceux qui vont être pris par l'amende...
C'est étonnant, parce qu'on peut se faire livrer comme Uber Eats,
bien sûr. C'est ça.
Mais ouais. En fait, les personnes qui consomment
vous
dans la
quoi,
rue,
la police,
c'est souvent des personnes qui n'ont pas les moyens d'être chez eux. Et donc, c'est ces personnes-là qui n'ont pas les moyens de payer l'amende, en fait. Mmh. On va aller cibler les personnes qui sont... qui n'ont pas les moyens de consommer sainement chez eux.
Catherine Huberschit, qu'est-ce que vous faites? Que fait la police? Pardon cette question.
La police a résolu plusieurs affaires hein, récemment de personnes qui livraient, alors pas forcément que du cannabis, de la cocaïne, tous les produits possibles étaient livrés par livreurs, alors type Uber Eats, on va dire en scooter ou en voiture. Il y a eu plusieurs affaires de ce type. Donc la police, elle est proactive. Elle travaille sur le sujet. Et je rebondis sur ce que disait Fiona. En effet, moi, ce que je crains, c'est que les gens consomment plus chez eux que dedans. C'est-à-dire que quelque part, eh bien, cette amende va laver plus blanc que blanc. Il y aura moins de consommateurs dans la rue et plus chez eux.
Ça va modifier les chiffres en plus.
Et ça modifiera les chiffres, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a trois personnalités qui sont sur le terrain et que les trois, vous êtes hostiles à cette réforme de par votre expérience.
Moi, je ne suis pas hostile. Hein.
Je suis
mitigé.
Ah, vous êtes mitigé,
c'est vrai. Je suis mitigé.
Donc 2,5, on va dire, un mitigeur. Voilà. Est-ce qu'il faut dépénaliser ? Est-ce qu'il faut légaliser ? Ça, c'est un débat éteint. Tiens, écoutez une archive, c'est Yannick Noah, qui ne s'est jamais caché, qui l'avait fumé, qui fumait du cannabis. On est en 96 sur France 2, l'émission s'appelle Polémique.
Certains sportifs, certaines personnes, lors de soirées, fument un joint. Et ça, c'est quelque chose qui est très répandu dans le sport, en dehors du sport, à l'intérieur, à l'extérieur, les pros, les amateurs. Tout le monde le fait, nos enfants le font, l'ont fait.
Voilà, pour lui c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Fiona nous disait qu'elle est pour la légalisation du cannabis, Marie-Estelle.
Alors, moi je le suis pas, mais je parle pour moi, pas pour tout l'ensemble de la profession des psychologues, parce qu'il y en a qui ont des arguments qui tiennent vraiment la route dans l'autre sens. Simplement, un adolescent, il se construit avec des interdits, des repères et de la transgression. Et pour moi, le problème, c'est que si on autorise le cannabis... Pour vivre cette transgression qui est importante pour sa construction identitaire, il va être obligé d'aller plus loin. C'est-à-dire d'aller sur des drogues en fait, qui sont encore plus violentes, encore plus dures. Donc comme je pense que l'interdit est structurant, je ne suis pas pour la dépénalisation du cannabis, d'autant que ce n'est pas sans effet quand même sur la mémoire et les centres cérébraux.
Il y en a qui fument... Pardon, mais j'avais un copain en fac...
Qui en fume 14 par jour.
14 par jour ?
Oui.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?
Ben moi, je lui ai proposé du chanvre, du CBD pour dormir. Et depuis, elle en fume plus que 7 par jour déjà. Donc, l'effet relaxant et anxiolytique...
7 par jour, c'est déjà monstrueux.
Enfin, oui, non. Mais en une semaine, elle a réduit de moitié.
Si elle prend le volant, c'est un danger. Oui,
bien sûr. Ouais. Mais moi, je rejoins beaucoup Marie-Estelle Catherine. Sur le problème de l'adolescent. Moi, j'ai fait de la prévention en milieu scolaire. Et les élèves consommateurs, franchement, ils étaient très décrocheurs. Hein, donc, ça, là-dessus, on ne peut pas le nier. Plus de 23% des accidents de la route aujourd'hui sont la résultante de la consommation de cannabis, entre autres, parce qu'il peut y avoir d'autres produits. Donc, moi, je ne peux pas être pour la légalisation, même pas la dépénalisation, mais ça, c'est mon propre choix.
C'est à cause de l'uniforme ou c'est votre conviction ?
Je n'ai pas d'uniforme, c'est ma conviction. C'est parce que je les ai beaucoup vus et que les jeunes qui ne fument pas se portent quand même beaucoup mieux que ceux qui fument. Et puis, la transgression, c'est que quand on aura le droit de fumer du shit, eh bien, on se tapera un délire avec de la coke, voire plus, pour transgresser et pour dire zut aux parents. Quoi.
Moi, j'ai plutôt envie de dire... déjà, le cannabis, non, il n'est pas fait pour être consommé sur un cerveau immature, ça c'est sûr. Donc pour moi, si on le légalise, ce n'est pas une plante légalisée n'importe comment. C'est déjà, elle ne devrait pas être accessible aux mineurs, comme c'est dans le cas dans énormément de pays.
C'est un peu une illusion, ça, non ? Parce que c'est comme l'alcool, hein. L'alcool interdit au moins de 18 ans.
À ce moment-là, réfléchissons à comment est-ce qu'on éduque, à comment est-ce qu'on met les lois en place. Honnêtement, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on éduque, parce que la consommation, elle est là. On fait de la prohibition de cannabis depuis des années, et pour autant, la France, on est les plus gros consommateurs de cannabis, donc il y a bien quelque chose qui ne marche pas. Donc essayons autre chose, changeons les habitudes. On est un des plus mauvais élèves en termes de mode de consommation, c'est-à-dire que dans des pays, on a 98% des consommateurs, le mix avec du tabac en combustion, ce qui est le pire mode de consommation. Si on apprend déjà dès les premières prises en vaporisant ou en ingérant, en cuisinant, je pense que déjà on diminuera les dommages.
En tout cas,
mais Siona, vous les laisserez conduire les personnes
Comme avec l'alcool, en fait.
La demi-vie du produit, elle est beaucoup plus longue, donc
l'emprise de THC dure au maximum 3 heures, sauf si on ingère, à ce moment-là, c'est 6 heures. Mais je pense qu'après, il faut aussi faire appel au bon sens des gens, comme on fait avec l'alcool, qu'on mette à disposition des tests pour voir si on est encore sous emprise, qu'on investisse plutôt là-dedans, parce que là, en fait, on fait la chasse aux consommateurs et pas la chasse aux dangers sur la route.
Eh ben disons, c'est intéressant tout ça, et c'est un débat qu'on pourrait poursuivre très longtemps. Le mot de la fin sur ce sujet-là, on va le laisser à Numéro Bis, autrement dit Jabel Debbouze dans Mission Cléopâtre, parce qu'on a aussi le droit de sourire un peu.
Cannabis ! Cannabis ! Allez ! Tu n'avances pas du tout, cannabis.
Eh non, tu n'avances pas du tout, cannabis. Allez, restez avec nous un instant. On en parle ou on n'en parle pas ? C'est vous qui décidez dans RTL Soir.